On refait le monde, Christophe Ondelatte.
Je vous présente les quatre polémistes du soir, en commençant par Anne-Sophie Mercier de Charlie Hebdo. Salut.
Bonsoir Christophe.
Azouz Begag, sociologue et ancien ministre. Bonsoir Monsieur le ministre.
Bonsoir à tous.
Yvan Rioufol, éditorialiste au Figaro.
Bonsoir.
Et le journaliste et écrivain italien Alberto Toscano.
Buonasera.
Buonasera. Je vous rappelle qu'il vous incombe de désigner d'ici la fin de l'émission la langue de vipère du jour en appelant le 3210 ou en envoyant un mail on refait le monde tout attaché @rtl.fr. Alors on va commencer quand même par là. La grande affaire du jour. Dans l'interview qu'il a donnée hier soir à la télévision, le président Sarkozy a parlé de coupable pour désigner les accusés de l'affaire Clearstream. Coupable alors qu'en droit français, ils sont présumés innocents. Alors je vous lis la phrase incriminée. Hein. Deux juges indépendants ont estimé que les coupables devaient être traduits devant un tribunal. Est-ce que c'est grave, docteur ? C'est à vous que je parle, docteur Toscano, par exemple.
À mon avis, oui, c'est grave.
Pourquoi c'est grave ?
Dans le sens que le métier de Nicolas Sarkozy est avocat, je le rappelle, dont il connaît parfaitement l'utilisation de ce mot-là. Et ce n'est pas une simple gaffe, visiblement. Tous les mots de cette interview étaient... J'ai vu et revu cette interview. Mmh. Les 38 minutes de cette interview, tous les mots étaient pesés. Une fois... Il s'est trompé de mot, il a immédiatement corrigé. Donc là, ce mot a été pesé et il a été choisi. Et dire qu'une personne qui est sous procès, et en, qui plus est, au moment où cette personne, ces personnes sont pendant le procès, dire que ces personnes sont déjà coupables, de la part du président de la République, qui est aussi président du Conseil supérieur de la magistrature, est un choix politique, oui. à mon sens, grave.
Moi, je ne partage pas cette idée. Je pense qu'il s'agit d'une bavure linguistique. Je pense que ce mot est sorti comme ça, parce qu'il est intimement persuadé, le président de la République, que Dominique de Villepin est déjà coupable. J'ai regardé sur le dictionnaire ce que signifiait le mot coupable. C'est qui a commis une faute, un délit, un crime. Donc, pour Nicolas Sarkozy, Villepin a commis une faute, un délit et un crime. Alors, je voudrais juste ajouter que dans la phrase dont nous parlons, c'est-à-dire deux juges indépendants ont estimé que les coupables devaient être traduits devant le tribunal correctionnel. Il y a le mot coupable qui est gênant, mais il y a le mot, l'adjectif indépendant. Deux juges indépendants. Est-ce qu'il est besoin de préciser, pour un juge, qu'il est indépendant ? Qu'est-ce que c'est que cette formule pléonasmique ?
Oui, c'est pour se défendre, évidemment, de l'idée qu'il aurait poussé...
On ne qualifie pas un juge de juge indépendant.
D'instruction,
ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas indépendants.
Si vous voulez parler des juges d'instruction, on dit des juges du siège qui sont indépendants.
Il veut préciser au passage qu'il n'a pas poussé les juges à poursuivre. On reste sur coupable. Anne-Sophie Mercier.
Je ne crois pas que ce soit là, que ce soit délibérément que le président de la République ait dit le mot coupable. Je crois qu'il s'agit d'un lapsus qui est dû à la complexité de sa position, puisqu'il a deux casquettes. Il est président de la République et il est partie civile. Il voulait parler en tant que président de la République et c'est la partie civile qui a parlé. Et en tant que partie civile, évidemment, il est persuadé que Dominique de Villepin est coupable.
Et en général, il faut dire qu'on reconnaît aux parties civiles le droit de s'affranchir des règles de précaution. Autant, on ne dit pas à une maman dont la fille a été assassinée, elle ne doit pas dire le présumé assassin de ma fille. Elle dit l'assassin de ma fille et puis on ne va pas lui chercher pour la tête.
Il est partie
donc effectivement,
civile,
confusion de genre.
C'est la partie civile qui a parlé et c'est très grave puisque, en effet, ça peut être interprété comme une pression sur les magistrats, mais moi je suis intimement persuadé de ça.
Yvan Rioufol.
Oui, je ne vais pas trancher de savoir si c'était effectivement volontaire ou un lapsus. Moi, je pencherais effectivement pour le lapsus, pour avoir également écouté, et vu l'énormité quand même de cette faute, il m'étonne que le président de la République l'ait commise sciemment. Mmh. Parce que ça rajoute effectivement, ça a été dit, au soupçon de partialité. C'est vrai qu'il est déjà parti civil, alors qu'il est lui-même, qu'il bénéficie de l'immunité, il domine déjà le parquet, donc ça rajoute à une suspicion de justice qui serait sous dépendance. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette phrase, et d'ailleurs je la relis à la conférence de presse qu'a faite Dominique de Villepin lundi sur les marches du palais entouré de sa famille et se présentant comme victime et accusant d'être victime d'un procès politique, d'acharnement et d'être victime d'un procès politique, on est là en fait dans le vrai ressort de cette affaire Clearstream, qui pour moi n'est pas un scandale d'État. Le scandale d'État, ça va être le scandale que l'on va avoir sous les yeux de ces deux hommes d'État qui vont précisément se bouffer le nez sans retenue, sans pudeur, si je puis dire, devant la France entière, alors qu'il y a 1000 dossiers à régler. Et c'est cette absence, de retenue-là, cette absence de discernement, cette absence de recul qui va, qui va être désastreuse, mais semble-t-il...
En termes d'image,
désastreuse pour la politique, classe politique, pour la France, et pour la droite, et pour la droite en particulier.
C'est terrible, pour rebondir sur ce que disait Yvan, c'est terrible à quel point la haine s'affiche, à quel point l'inconscient explose depuis deux jours. Il suffisait d'écouter Pierre Charron, il y a deux jours, qui commençait à parler de
Pierre
Club
Charron
Med.
Pierre Charron est le conseiller en communication.
Un des conseillers du président de la République, qui parlait de Chippendale, de Club Med, mais surtout il a une phrase qui est passée un peu inaperçue. Il a dit... On peut être beau, grand, arrogant et perdre. Et on sent bien que c'est la suite du match. La suite du match de 2007, c'est t'es beau, t'es arrogant, t'es grand, t'as perdu, vas perdre encore, tu vas payer.
On
va te pendre un croc de boucher. Cette haine, cette absence de retenue, c'est quelque chose de terrible.
Azouz Begag, vous avez été ministre du gouvernement Villepin, donc vous avez assisté au Conseil des ministres en siégeant aux côtés de Nicolas Sarkozy sous l'autorité de Dominique Villepin. Est-ce qu'on sentait cette haine?
Ah, franchement, vous savez, toute l'amitié que je porte au président de la République, et je trouvais que cet homme portait en effet une violence, une haine, mais sans doute historique, pour quelque raison que ce soit, elle était visible sur lui. Et dès l'instant où moi je me suis opposé à lui, j'ai subi effectivement cette haine.
Mais entre Villepin et Sarkozy.
Non, c'est la France, au Conseil des ministres, c'est l'élégance française. C'est
la haine n'était pas visible.
Non.
Même hors du Conseil des ministres.
Mais ce qui est marrant, c'est que la haine, elle s'exprime en dehors du Conseil des ministres, en dehors du gouvernement, à travers les médias. Et c'est là, en distillant des petites phrases assassines, les uns et les autres rendent les coups de la haine du voisin.
Je vais poser la question un peu, je vous la posais la même. Est-ce que vous aviez connaissance de ce niveau de haine entre les deux hommes? Moi, j'avoue
non. C'est pour ça que
Yvan Rioufol, vous qui suivez la droite depuis.
Ce procès, je la suis comme ça, mais ce procès est en lui-même un énorme lapsus. C'est-à-dire que tous les ressentiments, effectivement, que l'on supposait, présupposait entre ces deux personnalités vont ressortir à travers une histoire qui elle-même est cousue de fil blanc, qui est montée d'ailleurs par un mythomane d'un côté, par un parano de l'autre, qui donc ne porte sur rien et qui d'ailleurs n'aurait jamais dû sortir s'il y avait eu les vérifications élémentaires qui avaient été faites dès le départ par la presse elle-même, qui a participé à ce pseudo Watergate français en se laissant aller à une hystérie absolument collective,
indécente
collective, et auquel a participé la classe politique dans une naïveté surprenante. Et donc c'est tout ça qui va apparaître aujourd'hui, me semble-t-il, auprès de l'opinion française, qui ne comprend rien d'abord à cette affaire-là, et qui comprend simplement une chose, c'est que ces deux hommes d'État qui sont supposés avoir de la distance et avoir le sens de l'intérêt général, ne pensent qu'à leur règlement de compte intime.
Vous saviez vous aviez ressenti ce niveau de haine entre les deux hommes, Alberto Toscano?
Ce niveau de haine, non, mais une forte compétition, oui. Alors, quand on fait politique, la compétition peut se transformer en haine, c'est parfaitement plausible, et là, visiblement, on assiste à une compétition qui s'est envenimée de plus en plus, jusqu'au niveau actuel, qui a un poids lourd pour la majorité.
Parce qu'Anne-Sophie, vous qui suivez alors la vie politique depuis longtemps...
Je le sentais, en dépit de mise en scène médiatique de réconciliation fréquente, la haine, elle se voyait aussi sur les photos, dans les regards, dans les expressions. Il y avait une jalousie féroce, il y avait l'énergie d'un côté, celle de Nicolas Sarkozy, et puis il y avait ce look aussi, cette apparence de Dominique de Villepin, qui pour Nicolas Sarkozy, je le répète, était un vrai problème à l'époque. C'était très noir, très dur, très fort.
Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Le président de la République française a bafoué ce qui est cher dans la justice de France, la présomption d'innocence. Il a bafoué devant le monde entier. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Deux choses.
Alberto Toscano.
Où il s'agit du... C'était une gaffe, comme mes collègues le disent. Et alors, Nicolas Sarkozy a tous les moyens pour dire... C'était une gaffe. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de mal si un président de la République dit c'était
une gaffe? Ma langue a fourché, quoi.
Bon, il y a plein. Tous les hommes politiques sont des gaffes.
Ça ressemble au bonhomme, à votre avis, de dire ça.
C'est jamais de la vie. C'était pas une gaffe, et je le répète.
Et en plus, il est avec son immunité, il est donc à l'abri du recours que compte faire Dominique de Villepin, qui veut tenter une action pour diffamation publique. Et naturellement, Dominique de Villepin est.
Donc les armes sont illégales.
Oui, les armes sont illégales, c'est pour ça qu'il a eu tort en même temps de rester comme partie civile, alors même qu'il est en même temps chef hiérarchique du parquet. Donc effectivement, là, il y a une sorte de faute, je suis d'accord avec vous, il ferait mieux de s'excuser, de reconnaître qu'il a fait une gaffe.
On a la pub et on revient sur l'interview de Nicolas Sarkozy sous d'autres aspects. J'aimerais savoir, par exemple, si vous croyez que, comme il en a l'ambition, il peut faire changer le monde de la banque et notamment plafonner les bonus des traders et tordre le bras aux Américains.
RTL Soir, on refait le monde. Christophe Ondelatte.
On est ce soir avec Anne-Sophie Mercier, Azouz Begag, Yvan Rioufol et Alberto Toscano. Et c'est vous et personne d'autre qui dirait qui est la langue de vipère de cette soirée en appelant le 3-2-1-0 ou en envoyant un mail à Camille Christoffel qui l'attend avec impatience. On refait le monde @rtl.fr, c'est l'adresse qu'il vous faut inscrire. Alors revenons à l'interview du président Sarkozy. Il a redit hier soir dans son interview à la télé qu'au sommet du G20 de Pittsburgh, qui démarre là dans une heure et demie, il allait se bagarrer pour qu'une décision internationale soit prise de plafonner les bonus des traders. Croyez-vous d'abord à la sincérité du président français sur cette question-là et croyez-vous à sa capacité? Il l'a dit d'ailleurs avec une forme d'humilité qui est assez inhabituelle chez lui. Hier soir, il a dit « je ne suis que le président de la France, petit pays hein ». Croyez-vous à sa capacité à faire avancer les choses sur ce terrain-là? Qui veut attaquer là-dessus? Yvan Rioufol.
Il se présente, oui, comme l'imprécateur. C'est assez amusant de voir ça. Il se présente comme étant l'homme qui va changer les comportements. D'ailleurs, il a une ambition colossale. Il veut changer tous les comportements, pas seulement les comportements des traders et des banquiers, mais les comportements des consommateurs vis-à-vis de leurs voitures, les comportements des internautes. Il veut changer, il veut révolutionner le monde, et en s'appuyant sur l'État, d'ailleurs c'est assez amusant de voir à quel point un libéral peut du jour au lendemain redevenir un étatiste en essayant de brandir à nouveau la force exemplaire de l'État. On appelle ça du volontarisme. Mais simplement, naturellement, on voit que cette posture est très vite, très limité. Alors naturellement, il donne l'exemple. D'abord, c'est lui qui a initié le G20. C'est lui qui a initié également de cette taxe carbone qui veut être exemplaire
En même temps, d'autres pays l'ont appliqué avant nous.
Et c'est lui. Il veut être le porte-étendard. Et c'est lui aussi qui, avec ses décisions d'étaler les bonus.
Il se pousse du col ou pas?
Il se pousse naturellement.
Le président français Sarkozy peut changer la face du capitalisme mondial.
Mais sûr que non. Il est dans une posture, mais il sait très bien également que cette posture ne tiendra que si est suivi. S'il n'est pas suivi, ça ne servira à rien.
Alberto Toscano.
Le président français ne peut pas changer le capitalisme planétaire, mais le comportement de Sarkozy face à la crise économique a été excellent, à mon avis. Ça, il faut le dire. Et le soir du discours de Toulon, j'étais ici à RTL, les commentaires étaient critiques, on disait il a noirci le tableau. Non, c'est lui qui avait raison. Et la réunion de G4 à l'Elysée pour organiser le G20, a été un bon choix. Donc, les choix de fond qu'il a fait ont été efficaces. Évidemment, il doit faire face à un problème qui a des dimensions planétaires. Mais la façon où il a essayé de rassembler l'Europe pour arriver unis les Européennes à Pittsburgh a été un bon choix, à mon avis.
Il est ici avec Barack Obama au G20. Et s'il y a une puissance mondiale qui a une capacité pour activer ce système, pour le moduler en fonction des intérêts planétaires, c'est Barack Obama et les États-Unis, et c'est surtout pas Nicolas Sarkozy, pays dans lequel il n'y a plus un centime, pas un euro dans les caisses, et qui a 1500 milliards d'euros de dettes.
Les Américains ont plus de dettes. On peut difficilement donner des leçons sur les traders.
Deuxièmement, je voudrais dire qu'on moi, je ne sais même pas ce que c'est qu'un trader. Je ne sais même pas combien ça gagne, un trader. De 100 000, des millions, j'en sais rien.
Ça dépend des traders, figure.
J'en sais rien. J'ai entendu parler du Lyonnais, là, Jérôme Kerviel, qui a poussé 50 millions d'euros à Singapour et qui a fait couler sa banque à moitié. Mais pour le reste, les gens qui nous écoutent, ils n'en savent rien. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'en réalité, c'est une affaire de com'. Et Nicolas Sarkozy est en train de dire à tous les petits gens qui sont en train de souffrir dans notre pays, tous ces grands-là qui s'enrichissent à mort dans les systèmes occultes des banques, je vais m'en occuper, je vais essayer de les coincer. Mais dès l'instant où on ne médiatise pas, quand on ne sait pas ce qui se passe, ça peut couler, ça peut durer encore des années et des années. J'entends dire par ailleurs que si on active la manette à contrôler sur le système bancaire, eh bien tous ces gens qui ont leur argent ici et qui ne veulent pas perdre, ils peuvent prendre tout leur argent et aller dans le système des fonds spéculatifs qui est déréglementé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun contrôle de rien du tout. En gros, on n'y comprend rien, personne ne pourra agir là-dessus, et surtout pas Nicolas Sarkozy, et le système va retomber dans l'opacité dès la semaine prochaine.
Oui, mais on n'en parlera
plus. En quoi ça dérange l'économie?
On ne peut pas lui reprocher de rien faire.
Yvan,
on ne peut pas lui reprocher de rien faire malgré tout, parce que vous voyez bien qu'Obama, pour l'instant, dont on avait dit qu'il serait lui le réformateur de tout ce capitalisme et le moralisateur de ce capitalisme, est en train de se plier sur les dictats de Wall Street, et c'est lui qui se refuse à aller plus loin que ce que demanderait Nicolas Sarkozy. Alors j'entends bien naturellement
C'est de l'agitation.
C'est de l'agitation de sa part, mais on aimerait aussi de la même agitation de la part d'Obama qui est
Anne-Sophie, merci.
On a fait pas mal de psychanalyse ce soir, parce qu'on se posait la question du lapsus du président, est-ce que c'en était un, est-ce que c'en était pas un. Et là, je voudrais, pour répondre à votre question, Christophe, c'est-à-dire savoir s'il est sincère, revenir à ce qu'on sait de la psychologie de Nicolas Sarkozy, pas tant que ça, dans le fond, mais on sait quelques trucs. On sait très bien que c'est un homme qui est fasciné par l'argent, il ne s'en cache pas, fasciné par les grands patrons, fasciné par le CAC 40. Alors, je ne sais pas, quand on a cette disposition d'esprit, ce tropisme-là, dans quelle mesure on peut moraliser, freiner, réguler le capitalisme. Il me paraît, à titre personnel, assez mal placé. En plus, bon, il y a le frein Obama, Azouz vient d'en parler, il y a des freins internes à la France aussi, il faut le savoir. Si on réglemente les bonus des traders, on est obligé de s'attaquer aussi aux rémunérations faramineuses des directeurs de banque, dont certains sont des proches de Nicolas Sarkozy. Donc pour lui, c'est compliqué de tous les côtés. Alors il a ce discours qui est beau, qui est flamboyant, qui nous fait rêver, ça ne mènera nulle part.
À part ça, comment l'avez-vous trouvé hier soir? Et comment avez-vous trouvé cette interview? Voilà, on peut aussi parler du travail de nos confrères, on peut parler de la manière dont se déroulent les interviews du président de la République en France et en l'occurrence là à l'étranger. Tiens, Toscano, vous, ce type d'interview, alors cela dit, non, c'est pas un Italien qui va nous donner le sens sur la démocratie immédiate, mais enfin bon.
Sincèrement, je trouve qu'on est sur le même niveau, plus ou moins, hein, que la différence n'est pas énorme aujourd'hui sur le plan de... Mais ceci dit, je trouvais que l'interview d'hier soir n'a pas été une mauvaise interview de la part de confrères et sœurs. Ils se sont comportés de façon correcte. Ils avaient préparé visiblement beaucoup mieux cette interview que la présidente d'il y a quelques mois.
Et les réponses de Sarko ont fait ça.
Malheureusement, ils ont raté l'opportunité sur les mots
coupables.
Ils n'ont pas vu passer.
Réagir. Peut-être ils n'ont pas étudié droit à la fac. Mais pour le reste, ils ont posé les questions qu'il fallait poser, à mon sens. L'interview a été intéressante et correcte.
Les 38 minutes d'interview vous ont paru intéressantes
Intéressant, oui. La taxe carbone, le discours a été du blabla, mais ça ne pouvait que... quand Nicolas Sarkozy dit « Moi, je pose la taxe carbone en France et l'Europe sera obligée de suivre, sinon il y aura un décalage France-Europe oui. », c'est absurde. Il aurait dû commencer par l'Europe, justement, pour éviter ce décalage. Oui. Là, ça va de soi. Donc, à part certaines contradictions et certains moments qui visiblement n'étaient pas si intéressants que ça, l'interview a été le fruit de bonnes questions, des questions qu'il fallait poser.
Anne-Sophie Mercier, l'avez-vous trouvé bon?
C'est facile de taper sur les confrères, donc on ne va pas le faire. Ce qui me frappait en regardant cet exercice, c'est à quel point c'est suranné, c'est vieux, c'est démodé. Quand on regarde la façon dont les présidents américains sont interviewés, le style, la rapidité, la vélocité, parfois une espèce d'insolence, là, ils sont corsetés, ils sont le fruit d'un système, c'est pas, est-ce qu'ils sont responsables? Pas forcément. Mais on s'ennuie, c'est vieux, c'est la télé de papa.
Hein. C'est aussi sans doute car il y a deux présentateurs de deux chaînes concurrentes qui se retrouvent à animer le même débat, ce qui est extrêmement difficile.
C'est extrêmement difficile.
Ceci dit, permettez-moi de dire seulement une chose.
Seulement
une chose. Alberto Toscano.
Si Berlusconi, sans aucune sympathie pour Berlusconi, mais si Berlusconi avait fait la gaffe de coupable dans un procès où il était partie civile, j'imagine ce que la presse française aurait dit le jour suivant. Hein. Pas de liberté en Italie, quel scandale et tout ça. Hein.
Yvan Rioufol.
Non, je trouve que le décor également qui était un peu minimaliste, donner à tout cela un côté un peu cheap, quoi, un petit côté compassé, un côté... Ben vous l'avez très bien dit, Anne-Sophie. Mais moi, ce qui m'a intéressé, d'abord, j'ai trouvé que sur sa physionomie, je trouve qu'il est un peu marqué par le pouvoir. J'ai trouvé qu'il a pris un coup de vieux, pour dire les choses.
C'est ce que Alain Duhamel disait ce matin sur RTL. Émacié et vieilli.
Oui, vieilli. Et moi, j'ai eu ce sentiment-là. Et surtout, ce qui m'a intéressé, c'est de... Et là, on sait, il ne ment pas. C'est vrai que c'est quelqu'un qui dit tout à peu près spontanément dès qu'il le pense. Et là, j'ai été surpris de voir qu'il n'avait si peu de goût pour un second mandat. Il l'a dit à la fin, d'une manière un peu ambiguë, mais autant il avait, vous vous souvenez de sa phrase en disant « Tous les matins, je pense à ça quand je me rase », en parlant de sa candidature à la présidentielle. Et là, il a tout de même avoué que s'il n'avait pas ce second mandat, ça n'empêcherait pas de dormir. Et j'ai trouvé ça peut-être plus intéressant que le reste, parce que c'est vrai qu'on... une telle fatigue. En plus, il a insisté sur le poids qu'il y avait sur cette fonction de tous les jours, quotidiennement, de prendre des décisions complètement... difficile de voir. J'ai eu l'impression qu'il en avait un peu marre.
Ça prouve qu'il a réussi à rouler même Yvan dans la farine quand même, parce que faut le faire de croire que Sarkozy. Oui, il est arrivé à rouler Rioufol dans la farine, Sarkozy, parce que faut le faire de croire qu'il veut pas faire un second mandat alors qu'il est en train que l'UMP est en ordre de marche.
Je pense qu'il était sincère quand il disait qu'il en avait un peu marre.
Je suis d'accord avec Yvan là. Monsieur Sarkozy est un homme inattendu.
Azouz Begag.
Inattendu et qui peut nous réserver des surprises de cette nature.
Comment l'avez-vous trouvé, Azouz?
Ah ben moi, voilà deux ans, cher Christophe, que je ne regarde plus la télé, donc je ne peux pas répondre à cette question. Et tout ce que je sais, c'est que ce matin, en regardant Internet et les infos, j'ai vu qu'il avait plus de 13 millions
de spectateurs qui avaient regardé ça. Mais c'est incroyable. Les gens aiment la politique, je crois. Ou alors, je ne sais pas, ils n'ont rien d'autre à faire.
Ça vous surprend ?
Ah oui, ça me surprend terriblement. 13 millions de Français. Beaucoup, incroyable.
Oui, c'est vrai que c'est beaucoup.
Je voudrais bien avoir cette audience, moi.
Nouvelle pause. Ah, mais là, on n'en est pas loin. Nouvelle pause et on se retrouve juste après.
RTL Soir.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Christophe Ondelatte.
Il est 19h43 et ça vous laisse une dizaine de minutes pour élire la langue de vipère en appelant le 3210. William attend vos appels ou en envoyant un mail. On refait le monde, tout attaché, @rtl.fr. Et c'est Camille qui est à l'autre bout de l'ordinateur. Décidément, c'est soirée Sarkozy ce soir. Vous avez sans doute noté que le ton monte entre Paris et Téhéran, entre la France et l'Iran, et donc entre le président Sarkozy et le président Ahmadinejad. Notre pays se retrouve vraiment en pointe dans le discours de fermeté à l'égard de l'Iran. Nous sommes devenus, certains le disent, je l'ai lu ce matin, le petit Satan de l'Iran, le grand Satan étant toujours quand même l'Amérique. Le président Sarkozy a dit que le peuple iranien méritait mieux que ses dirigeants actuels. Sur France 2, Ahmadinejad lui a répondu que le peuple français méritait mieux que ses dirigeants actuels. Est-ce que vous trouvez que la posture de Sarkozy en la matière est courageuse ? Est-ce que vous la trouvez utile ? Qui souhaite répondre le premier?
Elle est indispensable.
Alberto.
C'est la bonne posture, visiblement, face à un dictateur, même s'il a été élu de façon d'ailleurs assez discutable, comme Ahmadinejad, qui s'exprime de cette façon et qui garde pratiquement prisonnière, même si elle est l'ambassade de France, une jeune femme qui n'a rien fait et qui essaie de faire un chantage à un pays démocratique comme la France, et membre de l'Union européenne, la posture de Nicolas Sarkozy était obligée, et elle devait être exprimée de la façon où elle l'exprimait.
Là, à nouveau, je rappelle qu'il y a un président américain qui s'appelle Barack Obama, qui a les clés de la résolution du conflit entre l'Iran et le reste du monde. Nous, on n'a aucun argument. Au nom de quoi, moi, Nicolas Sarkozy, j'irai dire au peuple iranien, vous méritez mieux. Au nom de quoi? Est-ce qu'on a les moyens de cette politique? On n'a pas les moyens de cette politique. Je pense qu'il faut laisser les Américains travailler à la résolution de ces conflits. Il faut les laisser. Vous voyez, parce qu'on est en train de les exciter, là. Pourquoi on est en train d'exciter les Iraniens? Est-ce qu'on n'a pas d'autres soucis, et notamment nationaux, plutôt que d'aller chercher la petite guéguerre aux Iraniens? Ouais, pourquoi ce Kouchner, il y a 2 ans, déclare qu'on ne pourra pas éviter la guerre contre l'Iran? Il y a 2 ans, il venait juste d'être nommé ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que veut Paris vis-à-vis de Téhéran?
Il n'a pas dit ça.
On ne peut pas.
Il a dit la prochaine étape sera des guerres.
Azouz, on ne peut pas sous-traiter. On ne peut pas sous-traiter les problèmes de nos ressortissants, les faire sous-traiter par les États-Unis.
Je ne parle pas de Clotilde.
Oui, sortons le cas de Clotilde Reyes. Il y a un combat d'égo sur cette question-là. On est en pointe, plus que, sans doute que les Américains aujourd'hui, qui effectivement sont...
Et heureusement, je suis tout à fait en opposition avec ce que dit Azouz Begag. Je ne comprends pas d'ailleurs comment un démocrate puisse même tolérer qu'on puisse donner crédit à un totalitarisme. C'est un totalitarisme de faire ce qu'il veut. Mais peu importe la diplomatie.
De quoi, on va déclarer aux Iraniens.
Vous êtes un homme de morale également. Il y a un moment où la morale compte. Je ne m'abreuve pas beaucoup. Je ne m'abreuve pas beaucoup de ce mot-là, mais en l'occurrence, heureusement que Sarkozy est là pour sauver l'honneur d'Obama, qui s'écrase complètement, qui est absolument qui donne honte aux démocraties de voir à quel point il joue l'apaisement avec l'Iran, et d'ailleurs pour n'en rien récolter, parce que je vous fais remarquer qu'il se fait rigoler de lui, et en Iran et en Corée du Nord. Et partout ailleurs, et je trouve qu'heureusement que Nicolas Sarkozy tient ce langage-là face à l'Iran, et d'ailleurs j'ai bien regretté qu'il
n'ait... Ça va changer le cours de l'histoire, vous allez voir.
Peu importe, et j'ai bien regretté qu'il n'ait pas tenu ce langage-là d'ailleurs face à cet autocrate antisémite qui se présentait à l'UNESCO et que la France, par contre, a soutenu.
Anne-Sophie.
Je ne sais plus ce que je voulais dire.
Moi, je voulais dire qu'on a une priorité dans cette diplomatie, c'est d'abord de libérer notre compatriote. Clotilde. Et je ne trouve pas que les arguments diplomatiques...
Pas au prix de libérer un assassin...
Non, je ne trouve pas que les arguments diplomatiques...
Qui a tué en France l'ex-premier ministre...
Chapour
Bakhtiar.
Le parallèle est obscène.
On ne peut pas libérer un assassin pour obtenir...
C'est un assassin qui a fait 18 ans de prison. Vous allez voir que sans doute il va être libéré.
Oui, il va être libéré après ses remises de
peine. Azouz disait tout à l'heure, au nom de quoi est-ce qu'on dit au peuple iranien qu'il ne mérite pas son dirigeant, mais au nom de quoi? Au nom de ce que pense le peuple iranien lui-même, qui majoritairement n'a pas voté pour Ahmadinejad.
On
et à qui
sûr.
On impose.
On,
alors là,
on, tout le monde le sait.
Bravo,
on le sait très bien.
Vous avez tout très bien, bien attendu.
On sait très bien.
Un peuple iranien qui dirait que la liberté et la démocratie,
si on n'est
pas foutu de les aider, en tout cas avec des paroles, eh bien alors on est en se.
Bientôt, vous allez nous envoyer en Corée du Nord, vous, avec vos discours.
Même si l'assassin.
On va libérer Alberto
Toscano.
Même si
ça
s'agissait de.
Ça s'appelle l'esprit munichois, ce que vous développez là.
Même s'il s'agissait de faire cadeau d'un jour de prison à l'assassin en question, si ça est obtenu à travers un chantage à un pays démocratique, un président d'un pays démocratique ne peut pas céder. Clotilde doit être libérée indépendamment de ce chantage. Quand la chose où je ne suis pas d'accord avec Azouz et Rioufol ensemble, parce que leur discussion est basée sur le fait qu'à leur avis, il y a une grande contradiction, une grande différence entre Obama et Sarkozy. À mon sens, face à la question iranienne, dont le point central est le non au nucléaire iranien, nucléaire militaire iranien, et je pense qu'il y a un accord de fond entre États-Unis et France aujourd'hui. Je ne vois pas cette contradiction si grande entre France et États-Unis aujourd'hui.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que Nicolas Sarkozy a vu le point faible dans cette politique multilatérale d'Obama, qui est qu'effectivement, il n'arrive plus à prendre de décisions ni à se faire respecter. Et au contraire, je vois bien que Nicolas Sarkozy, en tout cas sur le problème iranien, cherche très régulièrement à se démarquer. Enfin, hier, il a dit qu'il comprenait naturellement les négociations, mais qu'il fallait également activer aussi les sanctions. Et donc, il joue sur ces deux tableaux, alors que pour l'instant, Obama ne joue que sur l'apaisement. Il joue vainement sur l'apaisement.
Il a une sémantique guerrière, le président Sarkozy. Il a une sémantique guerrière. Et je suis certain qu'en 2003, il serait allé faire la guerre contre l'Irak aussi. Donc ça va.
Le problème est de savoir si la politique d'Obama est efficace ou pas. La politique d'Obama n'est même pas efficace, même au Japon, où maintenant c'est un gouvernement anti-américain qui vient de se faire élire. Alors, vraiment,
est-ce qu'on peut lui laisser le temps à ce président de faire activer la diplomatie plutôt que la guerre?
Écoutez, le temps presse également. Vous avez des centrales nucléaires qui se construisent.
Il y a la guerre en jeu, Yvan, ici. Il y a la guerre. Il y a des millions de morts en
c'est
jeu.
Pour ça, il y a la guerre
donc,
en jeu.
Il faut que la diplomatie s'exprime.
En 38 aussi, c'était la guerre en jeu. On ne va pas refaire, Chamberlain. On ne va pas refaire la politique d'apaisement. Vous savez très bien où ça nous mène.
C'est énorme.
Je ne suis pas d'accord avec
Alberto Toscano.
Mais la droite américaine a toujours négocié avec les ayatollahs au-dessous de la table. Rappelons-nous la contradiction avec l'Iran a un côté public, un côté privé. Aujourd'hui, entre France et États-Unis, face à la question du nucléaire militaire iranien, il y a un accord de fond. C'est ça. Il y a des dialogues qui voient le groupe des cinq, duquel la France et les États-Unis font partie intégrante et fondamentale, qui négocient avec les Iraniens. Il y a un accord de fond sur la question iranienne entre France et
États-Unis. Il y a un moment où la réelle politique a des limites. Il faut quand même retrouver les principes essentiels. Et les principes essentiels d'une démocratie, c'est de défendre ceux qui veulent la démocratie.
On peut réformer le système capitaliste mondial. Oui, pourquoi pas, pendant qu'on y est. On va tout réformer. Les relations internationales, la banque, les traders. Moi, Nicolas Sarkozy, je vais tout faire.
Pourquoi vous prenez ce ton léger pour parler d'un problème grave comme ça? Je ne comprends pas. Je comprends pas votre argument.
Anne-Sophie Mercier, un peu de sagesse féminine pour clore ce débat-là.
Non, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre les arguments d'Azouz. Et ce n'est pas de la sagesse, je le connais.
On envoie la musique et il nous restera à connaître la langue de vipère de cette soirée. Camille Christoffel.
C'est Azouz Begay.
Et voilà. Vous voyez, la langue de vipère récompense les discours effectivement les plus mordants. Et il était assez logique ce soir que ce soit lui qui l'emporte. Bonne fin de soirée. Vous avez gagné une tribune demain, Azouz Begay. Juste avant 19h. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Parce que c'est la première fois que vous l'avez, la langue de vipère. Demain, c'est Bernard Poirette qui présentera RTL Soir. Je vous dis à lundi. Salut.
On refait le monde dans RTL Soir.
Christophe Ondelat.